France Inter.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Saintès.
C'est probablement l'une des choses dont nous sommes le plus fiers en France, notre système solidaire de protection sociale, né il y a 80 ans du Conseil national de la résistance, de chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins, vieux slogan du 19e siècle repris au sortir de la guerre à la création de la Sécu. Ça fait un certain temps que la sonnette d'alarme est tirée, on a même eu des publicités, souvenez-vous, la Sécu c'est bien, on abusait sa crainte, c'était en 1992 et il y a eu plusieurs redites depuis. Aujourd'hui, alors que le trou de la Sécu pourrait atteindre 41 milliards d'euros en 2030, son directeur Thomas Fatoum parle d'un point de bascule. Et aujourd'hui, vous avez entendu dans les journaux Catherine Vautrin, la ministre de la Santé, qui a annoncé 1,7 milliard d'économies pour l'année 2025, ce qui met notamment l'industrie pharmaceutique en colère. On pourra revenir évidemment sur l'ensemble des causes de l'accélération des dépenses de santé, mais l'impact du vieillissement y est pour beaucoup, l'accroissement des maladies chroniques. Désormais, on ne parle pas de mesures ici et là, on parle de transformation structurelle. La CNAM propose donc 60 mesures, dont certaines peut-être vont vous faire sauter au plafond. J'en pose quelques-unes ici que nous détaillerons en fonction de vos questions. Oui, il est question de ne plus permettre une prise en charge à 100% dont l'efficacité ne justifie pas un tel niveau de remboursement. Repenser la prise en charge des affections de longue durée, par exemple les ALD. Est-ce qu'on parle des guérisons, des rémissions sous surveillance? On le verra ensemble. La prise en charge des arrêts maladie, revue aussi, que la CNAM entend limiter avant prolongation, bien sûr si besoin, mais à 15 jours en ville, un mois en cas d'hospitalisation. Le remboursement des médicaments réfléchis sur ceux qui ont démontré une efficacité moindre, mais restent chers, donc chers à rembourser. Et on verra d'ailleurs si c'est un signal au labo, au patient ou aux deux à la fois. Au milieu de tout cela, il y a vos cures thermales, par exemple. Nous avions déjà eu l'occasion d'en parler. Nous parlerons également prévention, parce que c'est ça qui fait baisser les factures. Faut-il renoncer à nos 100% pour sauver le système? Est-ce que c'est ça l'équation? C'est le téléphone sonne, soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Sophie, vous êtes la première et vous êtes la bienvenue. Bonsoir.
Bonsoir.
On vous écoute, Sophie.
Eh bien, écoutez, moi, j'ai, à la suite d'un dépistage classique, en novembre 23, j'ai été diagnostiquée cancer du côlon. Donc, très, très vite, cancer colorectal. Très, très vite, on a organisé une opération. Ensuite, à la suite de cette opération, il s'est avéré qu'il fallait subir quelques séances de chimiothérapie pendant 6 mois. Donc, l'année 24, janvier et juin. Et voilà, maintenant, ça fait 1 an, je suis en pleine forme. Mais par contre, j'étais toujours surprise de me rendre compte que tout avait été gratuit, mais je n'ai jamais su combien s'élevait ce qu'on m'avait offert, finalement. Et ça, j'en ai parlé aux oncologues, aux docteurs, je trouve que nous devrions savoir à combien s'élève ce qu'on nous paye, finalement. Il y a des analyses, des examens radiologiques, des opérations, des chirurgiens, des hôpitaux, les hôpitaux. Et il faudrait quand même que, peut-être sur Amélie, on sache, voilà, ça a coûté tant, ça ne vous a coûté rien. Et si on prenait conscience de ça, il me semble qu'on aurait peut-être tendance à se dire on pourrait payer 5% des 100% ou 3% ou 1%. Enfin, on regarderait les choses d'un autre œil, je pense.
Et Sophie, avant de vous lâcher, c'est promis, on est content d'abord que vous alliez mieux, évidemment, que vous soyez en pleine forme, mais du coup, évidemment, vous allez être suivie, là, j'imagine, oui, assez sévèrement pendant les 5 premières années, probablement aussi après. Ouais. Est-ce que vous savez comment ça se passe en termes de remboursement, par exemple, pendant cette période-là?
Disons que pour l'instant, j'ai fait justement là, ça fait 1 an, donc tous les 6 mois, normalement, j'ai un contrôle de scanner, IRM, etc. Et là, pour l'instant, j'ai rien payé. Mmh. C'est toujours sur le 100%. Mmh. Voilà.
Bon, écoutez, tant mieux pour vous, et rappelez-nous à l'occasion pour nous dire que vous allez bien, Sophie, ce sera toujours avec plaisir. Merci beaucoup. Avec nous pour en discuter donc jusqu'à 20h, Thomas Fatoum est là. Bonsoir, Monsieur Fatoum.
Bonsoir.
Le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie, et puis Agnès Soubiran qui est là également. Bonsoir Agnès.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste au service économie et sociale de France Inter. Et éclairez-nous, Monsieur Fatoum, justement, puisque parmi les 60 mesures, il est question notamment de la prise en charge des affections de longue durée. Donc on parle effectivement peut-être de gens comme Sophie pendant la période de guérison ou la période de rémission, peu importe comment les médecins l'appellent en fonction des cas particuliers. Est-ce que c'est là, par exemple, que vous vous dites une fois qu'elle est guérie, une fois qu'elle fait tous les 6 mois des examens, là, il ne faut plus la rembourser à 100%, c'est ça l'idée ?
En tout cas, déjà, c'est important de se dire que, dans le cas de Sylvie, c'est ce 100% a joué son rôle.
Ouais,
c'est très important, et je veux le redire aussi ce soir, il est hors de question de remettre en cause ce système de la prise en charge à 100% pour les pathologies chroniques, les pathologies coûteuses. C'est un des piliers du temple de la sécurité sociale, de l'assurance maladie. Dans le même temps...
Donc ça concerne le maintenant pour Sophie, en fait ?
Oui, ça concerne le moment où, quelque part, il y a eu un épisode de soins aigus. Il y a guérison ou il y a rémission. Et donc la question, c'est est-ce qu'on maintient les gens à 100%, y compris par exemple pour les ALD cancer, c'est 5 ans. Mmh. Est-ce que, et d'ores et déjà, il y a heureusement d'ailleurs beaucoup de gens qui guérissent du cancer et donc qui vont sortir de l'ALD. Il y en a 200 000 par an aujourd'hui qui sortent déjà. La question, c'est est-ce qu'on peut avoir, dans une discussion avec les médecins, les patients, est-ce qu'on peut avoir une gestion entre guillemets un peu plus dynamique où on dit, manifestement, on est en sortie éventuellement d'un cancer, on est dans une situation de guérison, etc. Il n'y a pas de raison que le 100% soit maintenu. Et ça, cette gestion-là, c'est vrai qu'elle peut nous permettre, quelque part, de nous donner des marges de manœuvre pour pouvoir conserver le 100% pour des gens qui en ont vraiment besoin, parce qu'ils ont un diabète lourd, parce qu'ils ont un cancer, parce qu'ils ont une maladie psychiatrique très importante. Et ça, c'est vraiment... Voilà, comment on a une gestion qui est adaptée à la situation. Et bien sûr que s'il y a rechute, que ça reprend, le 100% doit reprendre. On est capable de gérer avec les médecins traitants un système souple comme cela.
Donc entrée-sortie, ça veut dire que c'est à la carte en fait. Ce que vous voudriez, c'est que ça puisse se faire à la carte en fonction du patient.
Est-ce ça doit se faire en fonction de sa pathologie et donc de sa consommation de soins, pour que quand on revient... Vous savez, une personne en ALD en moyenne, alors pardon, c'est toujours des moyennes, c'est plus de 9000 euros. De dépenses pour l'assurance maladie. Et ça montre que ça fonctionne, que le système protège. Les Français, en moyenne, c'est 3 000 euros. Et donc, c'est vrai, quand on revient à une consommation de soins qui est plus normale, est-ce qu'on peut, finalement, avoir un retour au droit commun et une souplesse ? Et je crois qu'on est complètement capable de le gérer avec les médecins traitants, encore une fois, avec les patients. Est-ce que je peux me permettre aussi de rebondir sur un point qui était évoqué par votre auditrice tout à l'heure ? Alors, il se trouve que le relevé de consommation annuelle de soins, il existe déjà sur Amélie, mais honnêtement, il est pas hyper bien foutu,
ah oui,
si vous me permettez l'expression.
Il y a un endroit où on peut cliquer.
Oui, exactement. Il y a deux personnes. Et même il y a 2% des gens qui vont le regarder. Ah. Ça existe. Mais ça fait partie des 60 propositions. On veut absolument dynamiser cette information, la rendre plus claire, la rendre plus lisible. Et en effet, et on fera une campagne de communication certainement à la rentrée pour faire partager tout simplement ça coûte quoi une hospitalisation, ça coûte combien une prise en charge d'un cancer, etc. Non pas pour culpabiliser les gens, toujours pareil, mais en effet pour que chacune et chacun on prenne conscience de ce que ça coûte à l'assurance maladie et donc aux Français.
Au milieu des 60 propositions, et notamment concernant toujours la prise en charge des ALD, vous parlez d'une liste de soins spécifique opposable à chaque affection longue durée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire, moi je l'imagine, avec le médecin qui donne une liste un peu à la Prévert et au fond la CNAM qui aurait un droit de regard en disant ça c'est pas la peine, ça non plus ? Comment ça marche ?
Alors aujourd'hui le système il fonctionne avec finalement une liste ouverte, c'est-à-dire que tout ce qui est en rapport mais de façon assez large avec l'ALD, est pris en charge à 100%. La question qu'on pose, et c'est vraiment un débat qu'on veut ouvrir, hein, c'est pas une proposition à prendre ou à laisser, c'est un débat qu'on veut ouvrir, c'est est-ce que finalement ça serait pas plus logique de raisonner de manière un peu plus concentrée, un peu plus claire pour tout le monde, qui est d'ailleurs que tout le monde soit d'ailleurs pris en charge de la même façon, et qu'on dise pour telle pathologie, on a une liste bien identifiée, strictement identifiée, de ce qui doit être pris en charge à 100%. Et qu'en faisant ce travail-là, on se pose peut-être un certain nombre de questions sur jusqu'où est-ce qu'on prend à 100% en charge des traitements qui ne sont pas forcément extrêmement, extrêmement efficaces. C'est une question aussi qu'on veut poser.
Et c'est là qu'on en vient aux cures thermales.
C'est là qu'on en vient aux fameuses cures thermales.
Alors par exemple, c'est là-dedans
qu'on prend les cures thermales. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de les rembourser à 100%? C'est la question que vous posez.
Exactement. Ce qui me permet de dire très clairement que notre proposition n'est pas de dérembourser les cures thermales, parce que c'est évidemment un sujet qui est important. C'est simplement que l'efficacité scientifique des cures thermales, on va dire qu'elle est débattue. On va dire qu'elle est débattue. Et que c'est normal que l'assurance maladie continue à prendre en charge. Mais honnêtement, on s'interroge sur le fait que ça justifie d'aller jusqu'à 100%. Et ça, cette question, elle peut exister pour les cures thermales. Elle peut potentiellement exister aussi pour d'autres, pour des médicaments qui sont toujours remboursés, mais à des niveaux de remboursement qui sont faibles, parce que l'utilité médicale est quand même questionnée. Et donc, est-ce qu'on va vraiment jusqu'à 100%? Je pense que c'est un débat qu'on peut avoir sereinement.
Monsieur Fatome, avant de retourner au standard, quand vous dites qu'il peut y avoir effectivement une liste de médicaments dont on sait cela seront de toute façon toujours 100% remboursables et pour les autres peut-être un peu moins. Au fond, vous parlez à qui, en fait ? Est-ce que vous parlez plutôt à ceux qui les prescrivent ou à ceux qui potentiellement peuvent les demander, c'est-à-dire nous les patients ? Est-ce que c'est les deux, mon capitaine ? À qui on parle ?
Les deux, mon capitaine. Non, surtout, c'est est-ce qu'on est capable d'avoir une approche médicale, scientifique, qui dise, voilà, le cœur de ce qu'on appelle un panier de soins pour le diabète, c'est ça. Et ça, on vous dit, ça c'est 100%, il n'y a pas de problème. Il y a des choses qui sont secondaires, il y a des choses qui sont peut-être en rapport à certains moments, mais qui ne sont pas primordiales. Mmh. Et ça, éventuellement, il faut qu'on ait ce débat. Et ça, il faut que le débat, on l'ait avec les associations de patients. On l'a déjà commencé à faire pour préparer ce rapport, ces propositions. Il y a eu 6 mois de travail avec l'ensemble des membres du Conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie. Le rapport, d'ailleurs, est soumis, sera examiné la semaine prochaine. Voilà. Et c'est un débat qu'il faut qu'on ait avec la Haute Autorité de Santé, les patients, les sociétés savantes. Est-ce que cette idée de liste-là peut fonctionner en garantissant que, évidemment, les traitements utiles à la pathologie concernée doivent continuer à être pris en charge à 100%.
Edith est avec nous. Bonsoir, Edith.
Oui, bonsoir et merci de prendre mon appel. Alors voilà, je vous relate une anecdote, au moins une, qui est de cet après-midi même. Mon mari, qui a une grave pathologie neurodégénérative, devait faire une échographie et avait l'ordonnance de ses deux épaules. Il avait donc rendez-vous, il s'est présenté cet après-midi et le radiologue lui a dit « Ah non, si vous n'avez pas deux rendez-vous, moi je vous fais qu'une seule épaule et vous reprenez rendez-vous pour la deuxième. » Et donc on va nous retaxer, et donc la sécu, puisqu'il est à 100% mon mari, d'une deuxième consultation. J'ai vécu la même chose il y a 12 ans, j'ai eu un cancer dans le même consortium privé, c'est toujours des cliniques privées. L'oncologue était là au cas où, on était une vingtaine à subir une chimiothérapie, il était dans son bureau au cas où, les infirmières s'occupaient de nous, on ne l'a jamais vu, on nous a taxé chaque patient à chaque fois, 35 euros de consultation pour chacune des chimios. Et ça, c'est pas normal. Il faudrait peut-être que les grands pompes de la sécu fourrent leur nez un peu dans l'hospitalisation privée. Parce que ça, c'est clairement de l'abus.
Merci, Edith. Thomas Fatome, vous qui êtes un grand pompe de la sécu, que vous qui allez pouvoir mettre votre nez là-dedans. Enfin, je pense à l'exemple du radiologue, par exemple. J'ai presque envie de vous demander si c'est légal.
En tout cas, sans être un grand pompe de la sécu, d'abord un citoyen qui, honnêtement, trouve que ce genre de comportement n'est pas véritablement acceptable. Il se trouve que demain, je reçois à nouveau l'ensemble des syndicats de médecins pour discuter justement de l'imagerie médicale et de comment on peut faire évoluer les pratiques et peut-être aussi les tarifs, on y reviendra peut-être.
Ah bah oui, mais allons-y tout de suite parce que allons-y tout de suite parce que c'est ce qui m'a frappé aussi.
Saucissonner les actes, c'est pas quelque chose qui est conforme à, y compris à la nomenclature. Il y a des règles, elles doivent être respectées, on fait des contrôles et d'ailleurs, dans les discussions que nous avons avec à la fois les radiologues et les médecins demandeurs de ces examens-là, on souhaite vraiment poser un cadre beaucoup plus clair sur ces sujets-là parce que, honnêtement, ça n'est pas acceptable.
Agnès, vous faites même des propositions pour faire baisser les tarifs parce que la radiologie fait partie de ces secteurs dont la rentabilité est bien supérieure à la moyenne, qui est clairement dans votre collimateur. Vous leur demandez de baisser leurs tarifs.
Oui, on a déjà commencé à discuter avec eux, on leur a déjà indiqué qu'on allait faire des baisses de tarifs. On souhaite le faire de manière contractuelle parce qu'on préfère toujours discuter. On a conventionné avec l'ensemble des médecins l'année dernière et c'est mieux de construire des dispositifs contractuels. Mais c'est vrai qu'il y a un certain nombre de secteurs. On a fait des travaux vraiment très approfondis d'aller vraiment explorer finement la rentabilité d'un certain nombre de sujets. La radiothérapie, la dialyse. Il ne s'agit pas de pointer des secteurs.
Ah bah si, vous les pointez quand même. Hein, les audioprothésistes, la biologie, la dialyse, la médecine nucléaire, la radiologie, la radiothérapie. Il y a du monde.
La sécurité sociale ne peut plus se permettre de financer des secteurs où vous avez ce niveau de rentabilité-là. On a besoin d'acteurs privés comme d'acteurs publics dans le système de santé. On a besoin de cette complémentarité-là. C'est une de nos forces. Mais comme on l'a fait dans le secteur de la biologie depuis 3 ans, quand il faut baisser des tarifs parce qu'on constate des niveaux de rentabilité trop élevés, eh bien, il faut le faire, particulièrement quand on a un système d'assurance maladie qui a 16 milliards de déficit en 2025.
Juste avant de retourner au standard, c'est Emmanuel qui nous attend. Juste, Agnès, en deux mots, est-ce que vous pouvez juste nous expliquer pourquoi on a l'impression qu'il y a eu une accélération et c'est ça qui justifie les gyrophares et l'alerte rouge aujourd'hui ?
L'accélération du déficit, c'est d'abord le vieillissement de la population.
Alors, certes, oui.
Voilà, qui fait qu'il y a de plus en plus d'ALD. Il y a une explosion, je ne sais pas si le mot est trop fort, mais en tout cas des arrêts maladie, de courte durée et de longue durée, contre lesquels on a encore beaucoup de mal à lutter.
Alors, on s'emploie, on se mobilise, mais il faut aller plus loin. C'est pour ça qu'on fait des propositions aussi sur ces sujets, sur les arrêts de travail. Après, si vous me permettez, sur le déficit aussi, il y a vraiment ce que vous décrivez. C'est-à-dire, le vieillissement, les pathologies chroniques, ces deux phénomènes-là qui se cumulent et qui font que les dépenses vont mécaniquement plus vite que nos recettes et creusent chaque année un déficit. Et donc l'enjeu, c'est vraiment, vous l'évoquiez au début de l'émission, prévenir ces pathologies chroniques. Moins de tabac, moins d'alcool, c'est moins de cancer, plus d'activité physique, une meilleure nutrition, c'est moins de diabète, et c'est absolument primordial. Il faut se dire aussi qu'on a aussi un phénomène un peu conjoncturel sur ce déficit, pas l'oublier tout de même, on est sorti de la crise
exactement,
Covid.
Exactement, c'est ce que j'allais vous demander, Covid et inflation.
Voilà, exactement, Covid et inflation, avec une charge importante qu'on assume dans nos comptes de manière légitime, c'est ce qu'on a appelé le Ségur de la santé, des revalorisations très importantes des professionnels de la santé qu'il fallait faire. À l'hôpital et en ville, il fallait les faire, mais ça pèse 13 milliards d'euros de manière pérenne. Le gouvernement l'a dit l'année dernière, il n'y a pas eu de financement dédié à ce Ségur de la santé. Donc voilà, il y a un phénomène conjoncturel, celui-là, mais celui qui est le plus inquiétant, hein, c'est vrai, c'est celui sur lequel on doit tous se mobiliser, c'est le fait que le vieillissement et les pathologies chroniques vont peser de plus en plus sur les finances de l'assurance maladie. Et si on veut préserver ce modèle de protection, il faut mobiliser tous les leviers, et c'est les 60 propositions de l'assurance maladie.
Et la situation est tellement difficile, même si sur les 6 premiers mois, que certaines augmentations qui devaient avoir lieu au 1er juillet de professionnels est repoussées. Ces augmentations sont repoussées au 1er janvier.
Exactement.
C'est le cas par exemple des kinésithérapeutes, et je peux vous
et
en parler.
Et des spécialistes.
Parce que, voilà, et des spécialistes, il y en a certains qui sont là au standard et que ça ne ravit pas particulièrement. Voici Emmanuel qui nous appelle de Tours. Bonsoir Emmanuel.
Oui, bonsoir.
On vous
merci
écoute.
À France Inter pour les émissions. Donc, moi j'aimerais parler de recettes. Parce que je me pose la question de savoir si toutes les cotisations sociales prélevées sur l'ensemble des salaires vont bien en totalité à la sécurité sociale. Parce que parfois, j'ai eu à rencontrer des délégués syndicaux qui disent que la sécurité sociale ne reçoit pas la totalité des cotisations sociales prélevées sur les salaires.
Et notamment cotisations patronales, c'est ce que j'entends dans le message d'Emmanuel Thomas Fatome.
Alors, l'immense majorité des exonérations de cotisations est compensée. Il y a une loi ancienne dans la sécurité sociale de 1994 qui pose ce principe de compensation. Et on parle souvent de TVA sociale. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, l'État a affecté une part importante de la TVA à la sécurité sociale, à l'assurance maladie, pour compenser ces baisses de cotisations. Donc ça c'est honnêtement la réalité de notre équilibre. Et en se disant aussi que notre niveau de dépenses de santé et le niveau du financement public de la santé, donc le niveau de recettes qu'on met dans la santé, il est déjà extrêmement élevé dans notre pays. Et c'est une des raisons pour lesquelles on dit qu'il faut arriver maintenant à piloter les dépenses d'assurance maladie, pardon si c'est un peu technique, à un rythme qui est le même que celui de la richesse nationale. C'est difficile, mais c'est possible. On l'a fait dans la décennie 2010-2019. On était quasiment à l'équilibre avant le Covid. Donc voilà, on fait des propositions aussi en matière de recettes dans ce genre des produits. Hein. Il faut aussi que nos recettes, elles aillent aussi vite que la richesse nationale, mais c'est vrai que l'enjeu, il est quand même de trouver l'ensemble des leviers pour modérer l'évolution de la dépense, pour que ça soit compatible avec l'évolution de la richesse nationale.
Voici Gérard qui est avec nous. Bonsoir Gérard.
Oui, bonsoir. Je suis un petit peu étonné de pas du tout entendre parler de prévention.
Mais on y va, on n'a pas fini.
La France en Europe fait partie du dernier ou de l'avant-dernier pays en ce qui concerne la prévention. Pour ça, il faut avoir beaucoup de courage parce que c'est un énorme chantier qui concerne les affections longue durée, donc les affections qui coûtent très cher à la sécurité sociale. Mais pour ça, il faut s'attaquer à un certain nombre de lobbies importants en France. Ça concerne les pesticides, la malbouffe, le port de charge dans les entreprises, tous des sujets qui sont soi-disant connus, mais dont personne ne parle jamais. Et surtout, on n'en parle pas pour l'avenir. Je suis sidéré que ça ne soit pas un vrai sujet.
Alors, c'est un vrai sujet, parce que je ne veux pas me prendre votre défense, Thomas Fatome, enfin, c'est dans les 60 mesures. Donc, effectivement, il y a la prévention. Moi, je voudrais savoir quels sont les secteurs, quelles sont les maladies, les pathologiques, ou qu'on ne dépiste absolument pas, sur lesquels tout est à faire, en fait.
Alors,
et qu'on pourrait faire que nos voisins font, les Anglais, par exemple.
En tout cas, ce qu'on peut mieux faire, notamment, c'est tout ce qui tourne autour du dépistage des maladies cardiovasculaires. Tout ce qui tourne autour de l'hypertension, tout ce qui fait que c'est une des principales maladies chroniques de notre pays et des pays comparables. Et ce qu'on propose justement, c'est d'engager, un peu sur la même logique que ce qui se fait sur les dépistages organisés des cancers, des politiques beaucoup plus systématiques de dépistage de ces maladies cardiovasculaires. Les Anglais font ça. Ils appellent ça « know your numbers », connaissez vos chiffres. Connaissez vos chiffres en matière de tension artérielle matériel. Et donc, comment on peut notamment mobiliser les pharmaciens? On pense vraiment qu'avec les pharmaciens, on peut construire quelque chose, bien sûr, en lien avec les médecins, en lien avec les infirmiers, pour que ces dépistages de l'hypertension soient beaucoup plus fréquents, beaucoup plus systématiques. Et donc, c'est un exemple sur lequel on peut aller plus loin. Et vous l'avez dit là-dessus, et vraiment, je vais inviter votre auditeur à aller regarder le rapport chargé-produit, parce que ça commence par ça. C'est la clé, c'est la prévention. Plus de prévention dans l'entreprise, plus de prévention dans les écoles. Nutri-Score obligatoire pour les aliments sous emballage. Pas de dépassement d'honoraires pour les dépistages organisés, les actes en lien avec les dépistages du cancer.
Alors attendez, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire, est-ce que c'est à mon gynéco, par exemple, si j'y vais juste pour le renouvellement d'une mammographie qui doit me faire payer que 26 euros et pas le dépassement d'honoraires, est-ce que c'est le labo où je vais faire ma mammographie? Comment ça se passe? Alors, pour le non-dépassement?
Il faut regarder dans le détail. Par exemple, sur tout ce qui est dépistage du cancer du sein.
Par exemple, donc les trucs très basiques.
Aujourd'hui, le dépistage organisé, vous recevez une invitation, il n'y a pas de dépassement d'honoraires.
D'accord.
Mais il se trouve qu'il y a, par ailleurs, beaucoup de femmes, c'est leur liberté, qui font ce qu'on appelle un dépistage individuel. Et là, il peut y avoir des dépassements d'honoraires. Nous, on dit, honnêtement, maintenant, grande cause nationale, grande cause de la décennie, la prévention, il ne faut plus qu'il y ait dépassement d'honoraires sur les dépistages radiologiques mammaires. Cancer colorectal, il peut y avoir une coloscopie qui fait suite à un dépistage positif. Il y a un risque. Là, on pense aussi qu'il ne doit pas y avoir de dépassement d'honoraires. Donc, c'est des sujets dont on veut discuter avec les médecins. On espère qu'on aura une oreille attentive de leur côté. Mais on pense que voilà, il faut essayer de supprimer le maximum d'obstacles à la prévention. Et que si une personne se dit, je ne vais pas faire mon dépistage parce que ça va m'exposer à des restes à charge, je vais payer un dépassement d'honoraires, il faut essayer d'aller supprimer ces obstacles-là et donc prendre sujet par sujet pour voir comment on encourage, sachant que je me permets aussi de préciser que nous, on s'est beaucoup engagé depuis 2 ans dans ce aller vers convaincre les gens de faire du dépistage organisé. On a des gens qui appellent, 3 millions d'appels l'année dernière, pour convaincre les personnes d'aller se faire dépister sur le cancer du sein, sur le cancer du col de l'utérus, sur le cancer colorectal. Et c'est vraiment un engagement très fort de l'assurance maladie. Des plateaux d'appels, on les a connus pendant le Covid. Vous vous souvenez, on appelait les gens qui étaient cas contact. On appelait les gens pour se faire vacciner. Ben, on fait pareil maintenant sur les dépistages organisés des cancers.
Est-ce que ça veut dire que, pardon Agnès, est-ce que ça veut dire que si on obligeait, au fond, chacun d'entre nous à faire un check-up annuel, par exemple, enfin, il s'agit de faire une prise de sang, on ferait du bien à l'assurance maladie ou pas?
Les médecins, ils vous diraient le truc systématique, on fait tout le monde fait des prises de sang, c'est pas hyper efficace. Ce qu'il faut vraiment, c'est aller là où il y a des risques, là où c'est ciblé. Faire des glycémies à jeun pour les personnes entre 45 et 50 ans, beaucoup plus systématiquement pour aller dépister des diabètes qui sont en train d'arriver, ça c'est pertinent. Donc c'est plutôt des choses plus systématiques, mais ciblées à des moments de risque de votre vie. C'est ce que nous disent en tout cas les autorités scientifiques.
Il faut aussi convaincre sur les vaccins. On l'a entendu dans le journal de 19h, la vaccination dans le monde est en recul. Dans vos propositions, vous dites qu'il faudrait par exemple vacciner tous les résidents d'un EHPAD, peut-être aussi les soignants.
Soignants y compris.
Ça fait partie des sujets qu'on met en débat, qu'on met en discussion, qu'on a eu au sein du Conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie. Est-ce qu'il faut aller sur une logique d'obligation? Vous résidez en EHPAD, vous êtes obligé de vous faire vacciner. Certains vont vous dire oui, mais d'accord, si jamais une personne dit oui au début et non à la fin, qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas la sortir de l'EHPAD. Voilà, après, je suis frappé tout de même, et ça, par un faible niveau de vaccination encore dans notre pays sur la grippe, y compris sur des populations prioritaires, la faible niveau de vaccination sur la grippe sur les professionnels de santé. Et donc, voilà, ce débat, il doit être posé d'exemplarité, aussi de prise en charge. Et donc, c'est une option, en tout cas, qu'on veut pousser dans la discussion politique.
On parle de l'assurance maladie au téléphone sonne ce soir avec Thomas Fatome, qui est le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie, et aussi avec Agnès Soubiran du service économique et social de France Inter. Et avec vous, Hélène, bonsoir.
Bonsoir.
On vous écoute, Hélène.
Mais écoutez, moi, je vous ai laissé un petit message pour vous faire part de mon expérience. Donc, je suis pharmacienne depuis une trentaine d'années. Et il y a un problème que j'observe, c'est celui d'une forme de complaisance des médecins, en particulier généralistes, qui font des prescriptions à la demande de leurs patients. Et donc, j'ai cité notamment un cas très particulier que j'observe, mais notamment à cette saison qui est la saison des sandales, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des prescriptions de chaussures entièrement remboursées par la Sécurité sociale, ce qu'on appelle les chaussures CHUP, chaussures à usage prolongé, pour des personnes, alors, dans certains cas, bien sûr, c'est complètement justifié, malheureusement dans un cas minoritaire. C'est-à-dire que moi, la majorité des patients qui se présentent avec des telles ordonnances sont parfois même très jeunes. C'est la voisine de palier. Mais oui, mais vas-y, tu vas voir, fais-toi prescrire ça. Et effectivement, bon, mais on délivre une quantité très, très importante de chaussures qui sont d'ailleurs de plus en plus... qui ressemblent de plus en plus à des chaussures
Des petites chaussures, des sandales de ville, vous voulez dire?
Mais oui, parce que dès lors qu'elles sont fermées devant, fermées
avec
derrière...
Avec des lanières,
on les voit. Voilà, ouais. Ça peut être des chaussures très similaires à d'autres qu'on trouve dans le commerce.
On voit bien le type de chaussures. Ouais. On voit bien les chaussures voilà. Auxquelles vous faites allusion, Hélène. Merci beaucoup, Thomas Fatome. Derrière la question d'Hélène, qu'on parle des fameuses chaussures ou de n'importe quoi, elle parle de la complaisance parfois de certains médecins. Et au fond, vous dites la même chose quand vous parlez des congés maladie. Et c'est pour ça que vous voulez regarder les choses d'un peu plus près, que vous les limitez à 15 jours, qu'il y a cette histoire de bonus-malus aussi avec les entreprises. C'est compliqué de parler de complaisance des médecins sans se les mettre à dos. Est-ce que c'est un sujet ou pas?
D'abord,
vous les respectez énormément et vous pensez qu'ils font un très bon travail, mais derrière.
Non, mais je le dis parce que on a tous, on est tous patients aussi, ils font un boulot, ils voient 1 million de patients tous les jours, les médecins généralistes. Ils travaillent 55 heures par semaine, donc honnêtement, on en a besoin. Donc sans verser ni dans le côté pointé du doigt, ni dans le côté angélique, notre boulot à nous, c'est de lutter contre la fraude et lutter contre les prescriptions qui sont abusives, qui sont en dehors des clous. Donc c'est une minorité, il faut quand même qu'on se le redise, mais nous sommes en train de relancer une campagne de contrôle d'à peu près 500 médecins qui sont des très gros prescripteurs d'arrêt de travail, qui prescrivent 2 à 3 fois plus d'arrêts de travail que leurs confrères à patientèle équivalente. Voilà. C'est 500 médecins sur 50 000 médecins généralistes.
Mais vous savez ce qu'ils disent en général, et on peut entendre cet argument, ils disent mais de toute façon ces patients-là, si moi je ne leur signe pas l'arrêt de travail, ils iront chez un autre qui lui signera.
En tous les cas, nous, dans ce cas-là, ce qu'on travaille avec eux, c'est qu'on leur demande de diminuer de 20, de 30% leur volume de prescription d'arrêt de travail. C'est ce qui se passe, c'est ce qu'on a fait l'année dernière. Ça fait plus de 100 millions d'euros d'économie, quand même, c'est assez considérable. Et donc, oui, il faut être à la fois intraitable sur la lutte contre la fraude et en même temps construire avec les professionnels de santé, parce qu'on ne fera pas de la prévention sans eux aussi. Les médecins traitants, ils voient leurs patients, ils leur disent allez vous faire dépister, allez vous faire vacciner. Donc il faut avancer dans les deux directions. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, et c'est aussi un volet des propositions que nous faisons, on parle de ce juste soin au juste prix. Et ça, c'est vraiment extrêmement important, en effet. Et donner aux médecins aussi tous les outils numériques de qualité de prise en charge. Et je prends aussi un exemple, mon espace santé. On a 20 millions d'assurés qui ont activé leur espace santé. C'est vraiment en train de décoller. Et ben aujourd'hui, il faut absolument amplifier le mouvement des cabinets de radiologie, de biologie, pour qu'ils alimentent systématiquement mon espace santé. On est en train de le faire, on est en train de réussir. Mais à l'horizon 2026-2027, il faut que ce soit systématique. Et quand l'assurance maladie rembourse un acte de biologie, eh bien il faut que le biologiste y mette automatiquement le résultat dans mon espace santé.
Avant de retrouver Hugues au standard, je vous disais tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de kinésithérapeutes qui a bien entendu effectivement le message de la ministre de la Santé au sujet de pas d'élévation au 1er juillet, mais peut-être au 1er janvier prochain. C'est Laura, qui est kinésithérapeute. Je lis son message. Nos actes n'ont pas été revalorisés depuis plus de 10 ans. Nous sommes déjà de plus en plus à pratiquer un petit dépassement pour les séances, pour continuer à faire tourner les cabinets et aussi payer nos charges.
Alors, je comprends honnêtement très bien. Je comprends la réaction honnêtement des kinés. Deux petits mots là-dessus. L'alerte a été déclenchée par le comité indépendant qui a dit les dépenses vont plus vite que les prévisions qui avaient été faites. Donc, on déclenche cette alerte. Cette alerte, elle déclenche automatiquement une suspension des revalorisations qui étaient prévues au 1er juillet. C'est pas une décision du gouvernement, c'est pas une décision de l'assurance maladie, c'est automatique, c'est dans les textes, c'est un espèce de freinage un peu budgétaire, et dans la période qu'on connaît, on ne peut pas s'en passer. Donc ces revalorisations, elles devaient être au 1er juillet. J'en profite pour dire qu'on a quand même signé une convention, des avenants avec les kinés, qui a eu des revalorisations 2024-2025, donc il y en a eu depuis 10 ans, et elles vont intervenir au 1er janvier. Voilà, je comprends encore une fois leur réaction. Ils peuvent avoir le sentiment de déception, mais elles vont intervenir, ces revalorisations, au 1er janvier 2026.
Voilà, il y a aussi les pharmaciens qui sont partis aussi pour un mouvement de grève à partir du 1er juillet aussi sur ces raisons-là et la baisse de remboursement de certains médicaments. Voici Hugues qui est avec nous depuis la Mayenne. Bonsoir Hugues.
Bonsoir.
On vous écoute.
Mais en fait, juste, alors, premièrement, une remarque. Je trouve qu'effectivement, il serait intéressant que ce soit beaucoup plus visible ce que l'on coûte tous les ans au système de soins. Comme ça, ça permet de comprendre les sommes qui sont engagées. Et puis après, deux sujets. L'idée d'avoir un quotient d'aide, de payer aussi en fonction du quotient familial. Et puis, pourquoi pas de regarder un petit peu un système de bonus-malus en se disant, bah, en fonction de l'âge que nous avons, on sait qu'il y a un panier moyen, entre guillemets, de dépenses à l'année. Et puis, en fonction de si on est en dessus ou en dessous, peut-être que ça pourrait être retrouvé, j'en sais rien, sur notre feuille d'imposition, en plus ou en moins. Voilà, c'est peut-être juste des propositions qui permettraient, même si elles sont symboliques, de responsabiliser sur le coût réel. C'est vrai que quand on dit, les soins sont gratuits, non, ils ne sont pas gratuits, on les paye tous les mois, etc. Et effectivement, quand on parle de fiches de paye, bon, on est souvent nombreux à dire qu'est-ce qu'on gagne en net. Moi, je me moque de ce que je gagne en net, le brut, effectivement, dans le brut, il y a tout ce qui semble gratuit.
Merci Hugues pour votre remarque, Thomas Fatome.
Alors, peut-être que le système auquel Hugues fait allusion, c'est ce qui existe par exemple en Allemagne, ça s'appelle entre guillemets un bouclier sanitaire, c'est-à-dire que selon votre niveau de revenu, votre niveau de reste à charge va être plafonné. C'est vraiment pas le système français. Vous l'évoquiez au tout début, on cotise selon ses moyens, on reçoit selon ses besoins. Donc, quel que soit votre niveau de richesse, vous recevez des remboursements de l'assurance maladie. Et au risque d'être un peu old school, on fête les 80 ans de la sécurité sociale, on est vraiment attaché à ce système-là. On pense qu'il faut faire très attention à pas casser le lien de solidarité entre les actifs, bien portants. C'est vrai qu'ils cotisent pour des gens qui sont généralement plus vieux, qui vont être malades, etc. Il faut faire attention à ça. Donc on veut vraiment, nous, préserver ce système-là. On n'est vraiment pas fan de ce bouclier sanitaire qui, par ailleurs, ne règle aucun problème en termes de maîtrise des dépenses de santé, c'est juste un partage du financement. Le sujet clé, encore une fois, c'est la prévention, et puis on n'en a pas beaucoup parlé, c'est l'organisation du parcours de soins. Est-ce qu'on a un parcours de soins mieux organisé, qui fait qu'on ne va pas aller à l'hôpital en urgence, parce qu'on aura une médecine de ville qui sera encore mieux organisée? Est-ce qu'on aura plus de chirurgie ambulatoire dans les hôpitaux, vous allez donc sortir plus vite? C'est tout ça qui permet aussi de maîtriser la dépense de santé, tout en disant que prendre conscience à l'ensemble de nos concitoyens de ce qu'apporte le système d'assurance maladie, des coûts qui sont engendrés, c'est encore une fois une voie sur laquelle on veut progresser.
On a quand même Elisabeth qui dit « J'ai été opérée d'un cancer du sein il y a un an, j'ai un traitement pour éviter une récidive qui coûte 50 euros par mois, si je ne suis plus remboursée, j'arrêterai ce traitement ».
Non, mais c'est pour ça qu'il faut absolument pas être systématique, comme je le disais. Il faut faire extrêmement attention. Il faut discuter des critères qui permettront de dire, à un moment donné, eh bien, vous êtes dans une situation de rémission, vous êtes dans une situation de guérison. Je reprenais l'exemple des affections de longue durée sur le cancer. L'année dernière, il y en a 190 000 personnes qui sont sorties de la LD cancer parce qu'ils ont été guéries. Donc il faut travailler avec les patients, travailler avec les médecins sur ces sujets-là.
Vous avez parlé à l'instant de la chirurgie ambulatoire. Il y a eu de très gros progrès pendant plusieurs années et là on stagne, il faut passer encore une vitesse.
Ouais, il faut, entre guillemets, j'allais envie de dire, il faut y retourner, c'est évidemment plus compliqué que ça, mais c'est vrai qu'on est aujourd'hui à 64% de taux de chirurgie ambulatoire. Il y a des hôpitaux qui sont à 80, voire à 85%, et les sociétés savantes, l'ensemble des experts vous disent que c'est possible d'aller à 80%. Et donc ça, quelque part, entre guillemets, c'est pas facile. Il faut changer les organisations, il faut adapter au sein de l'hôpital. Ça se fait pas d'un claquement de doigts, mais c'est, entre guillemets, des bonnes économies, parce que c'est des économies où on organise mieux le système. Donc on pense vraiment qu'il faut avoir une deuxième étape de la chirurgie ambulatoire dans ce pays. Il y a peut-être aussi des chirurgies simples qui peuvent peut-être se faire dans un environnement qui ne sont pas aussi compliqués qu'un environnement de bloc. Une chirurgie du canal carpien, une chirurgie de la cataracte. D'autres pays...
En cabinet
Alors, dans un environnement sécurisé, là aussi, ça se discute bien. Les sociétés savantes vous disent c'est possible de le faire dans un environnement sécurisé, mais qui n'est pas à l'échelle d'un bloc hospitalier. Et on peut faire, là aussi, des économies assez considérables et avoir une prise en charge de qualité pour les patients.
On a Thierry qui nous dit, alors il est pas tout seul, Thierry, à poser cette question, pourquoi ne pas donner le compte exact de médicaments prescrits par le médecin au lieu d'une boîte complète qu'on jettera ensuite à la poubelle? Elle revient chaque fois qu'on fait une émission comme celle-ci. Les pays anglo-saxons et d'autres, d'ailleurs, ont adopté le médicament à l'unité. Pourquoi on ne sait pas faire ça?
Alors, sujet compliqué. D'abord, les conditionnements des boîtes ont beaucoup évolué ces dernières années pour s'adapter beaucoup plus à la prescription. On vous prescrit 4 semaines de tel médicament. La boîte, elle fait 28 jours, elle est adaptée. Je me permets de dire aussi, c'est pourquoi on a des boîtes qui restent, c'est parce que l'observance n'est pas toujours au rendez-vous et que parfois on dit je prends 3 jours d'antibiotiques, je vais mieux, ça va très bien, je prends pas les 2 jours de plus et de circuler, il n'y a rien à voir. Ça, c'est un problème. Après, notre organisation, à la fois de la production chez les industriels, chez les pharmaciens, il n'est pas autour de ce...
Vous voulez dire que d'un coup, ça nous coûterait beaucoup plus cher si on se mettait...
En tout cas, c'est très compliqué. On a essayé à plusieurs reprises. Si les pharmaciens étaient là et s'ils nous écoutent, ils vous diraient qu'eux, ils sont vraiment pas chauds parce que ça leur prend beaucoup de temps. Il faut déconditionner, etc., etc. Donc, on a essayé de le faire, y compris sur ce qu'on appelle les antibiotiques critiques. On a beaucoup de mal à faire évoluer le système. Je suis pas sûr que ça soit l'alpha et l'oméga. Je pense qu'il faut continuer à travailler, à mettre des pharmaciens, les patients, les médecins autour de la table. Est-ce qu'il y a des types de prise en charge, de types de médicaments sur lesquels on pourra aller plus loin? Mais jusque-là, c'est vrai qu'on n'a pas réussi.
Bonsoir Antoine.
Bonsoir madame.
Vous réagissez, je vois bien ce que vous dites. Vous êtes radiologue et à l'histoire des deux épaules en début d'émission. Allez-y,
écoute. Alors, je vous avoue, je vais vous la faire court, je vous pose le contexte, j'étais en train de rentrer chez moi. Je travaille à l'hôpital public et en libéral, et donc j'entends madame et je...
Et vous tombez de votre chaise ou pas?
Non, je suis pas... En plus, j'étais en train de conduire, ça aurait été malvenu. Alors c'est vrai que présenté comme ça, c'est indéfendable. J'aurais souhaité que votre invité souligne quand même le fait que c'est des examens un peu particuliers, et ces examens osteo-articulaires, dans la plupart des cas, ils sont comparatifs, sinon on raconte des histoires. Mais... il faut dire que quand je fais deux épaules à la place d'une, parce que c'est évidemment qu'un patient en mauvais état, on va lui faire les deux épaules, là c'est qu'une, on paye qu'une. Mm-hmm. Quand je fais la biopsie de deux nodules du foie, je prends deux aiguilles, j'y passe trois quarts d'heure, la sécu va me payer une biopsie et un consommable. Mm-hmm. Et encore même pas. Si je fais la biopsie de plusieurs nodules thyroïdiens, c'est pareil, c'est des gestes qui durent pas longtemps. Mais ce qui est assez malhonnête, c'est que ça s'inscrit quand même dans un désengagement progressif. Pour être dans les deux systèmes, je peux vous garantir que l'hôpital a besoin du libéral et que heureusement que le public est là pour parer à certaines carences du libéral. Mmh. Dans ma spécialité, par exemple, qui est la radiologie interventionnelle, on a des consommables du matériel qui coûtent extrêmement cher et on ne pourrait pas s'en sortir si l'hôpital n'était pas là. Bref, j'aurais voulu qu'on explique pourquoi est-ce que malheureusement on ne peut pas toujours... vous allez me prendre pour un gredin en disant « non, je ne fais pas les deux épaules, c'est parce qu'on ne me paye pas deux épaules ». Mais croyez-moi, c'est... Il y a tellement de choses qui ne sont pas, on va dire, cotables à leur juste valeur dans mon activité, que quand j'ai entendu ça, je me suis dit qu'il fallait quand même que je le prenne.
Mais vous avez bien fait d'appeler, mais alors du coup, puisque vous êtes là et que ça vous a un peu agacé, est-ce que vous avez été encore plus agacé quand vous lisez dans les 60 propositions de la CNAM qu'il y a certains niveaux de rentabilité qui sont trop importants et qu'il faut baisser les prix, et ça concerne par exemple les radiologues? Est-ce que là, vous vous dites non?
Alors, si vous voulez, je pense que c'est quelque chose... Encore une fois, moi, j'y suis confronté régulièrement parce que j'essaye de faire en libéral des choses qui sont extrêmement utiles, mais qui sont très mal remboursées par la Sécurité sociale. Et je pense que votre invité est assez au courant, probablement au courant de la problématique de la radiologie interventionnelle, notamment, qui est une spécialité mini-invasive, qui rend grand service, qui est extrêmement mal représentée à cause du coût de ses consommables. Mais si vous voulez, moi, j'ai à peu près aucune illusion sur ce que va nous proposer la Sécurité sociale. Et si vous voulez, il va se passer un peu la même chose que ce que l'hôpital public a fait jusqu'au Covid, c'est-à-dire que toutes les innovations, la prise en charge des patients, ça va reposer essentiellement sur l'investissement des professionnels.
Antoine, pardon de vous interrompre, excusez-moi, je ne veux pas être impoli, mais comme il ne nous reste qu'une minute, je voudrais laisser à Thomas Fatome l'occasion de vous répondre.
Oui, juste un point, c'est que, docteur, vous savez certainement, on est engagé, pardon de rentrer un peu dans la technique, dans une refonte de tout ce qui est la nomenclature des actes techniques. Et donc, clairement, il y a des sujets sur lesquels on souhaite mieux valoriser, et sans doute que la radiographie interventionnelle peut en faire partie. Il y a d'autres sujets sur lesquels il se trouve que les tarifs de l'assurance maladie sont trop élevés par rapport à des activités où il y a eu des gains de productivité. On pense par exemple à quelque chose comme la chirurgie de la cataracte. C'est une chirurgie qui a énormément progressé ces dernières années, et donc on doit baisser les tarifs. Donc on doit faire ces deux éléments-là, valoriser l'innovation, mais quand il y a des niveaux de rente élevés, il faut baisser les tarifs de l'assurance maladie, c'est normal, c'est notre boulot.
Merci beaucoup Thomas Fatome, directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie, d'avoir été avec nous. Agnès, merci aussi, et merci à tous pour vos très nombreuses questions.